Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Salut, moi c'est Alice Vacher et dans l'empreinte, j'essaie de comprendre comment les marques s'engagent et agissent concrètement dans la transformation positive de notre société. Mon objectif est simple, décortiquer et mettre en lumière les initiatives sociales et environnementales des entreprises pour vous inspirer et vous éclairer sur ces sujets. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Luke Wise, le fondateur de The Good Company, le publicitaire engagé sur les sujets sociaux et environnementaux des marques. Je suis absolument ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
Bah, merci beaucoup, merci pour votre invitation.
Tu peux me tutoyer, tu sais.
Ah bah oui, c'est vrai, mais c'est vous collectif parce qu'il y a la régie derrière, donc c'est toujours un travail d'équipe, même si c'est nous qui sommes devant les micros.
Exactement. Parle-moi un peu de ton parcours, t'as un parcours un peu atypique, toi.
Je sais pas si c'est atypique, alors j'ai un petit accent puisque je suis moitié français, mais aussi moitié britannique. J'ai grandi en Angleterre, ce qui fait que parfois, je ne parle pas comme la regrettée Jane Birkin, mais parfois, j'ai un petit accent. Et puis, à 23 ans, j'avais vécu toujours en Angleterre, au Royaume-Uni, et j'ai décidé de venir en France, parce que je me suis dit, je suis quand même moitié anglais, moitié français, mais j'ai vécu toute ma vie en Angleterre. Donc, je suis venu en France et pour la faire simple, j'ai rencontré ma femme à la Sorbonne et donc je suis resté en France. Et j'ai très vite aimé la publicité. On va appeler un chat, j'aimais bien la publicité pour tout ce que ça avait de créatif. On a quand même une chance incroyable dans la publicité. On travaille avec des réalisatrices, des réalisateurs, des graphistes, des gens qui font des podcasts, des enregistrements. Donc c'est cool. On ne mesure pas notre chance en réalité. Et en même temps, je voulais, à un moment donné, après avoir fait plusieurs grandes agences et aussi fondé deux entreprises auparavant, je me suis posé la question de est-ce qu'il était possible de faire une publicité, une communication plus responsable?
Et alors, la réponse, on y arrive ou pas? C'est dur, hein? Surtout dans une société qui nous tacle de greenwashing constamment.
Oui, oui. Non, mais effectivement, c'est pas simple. Et je pense que, de toute façon, toute forme d'engagement ou de responsabilité n'est pas simple. Si c'était facile, on aurait tous les solutions. Je pense que l'important, c'est d'essayer et de le faire avec conviction. Et tu disais, le greenwashing, c'est un vrai sujet. Il y a même un autre sujet, même au-delà de ça. Avant le greenwashing, cette suspicion des publicités qui verdissent ou qui racontent des mensonges.
Pour ou dire l'impact les choses. Washing, il y a carrément maintenant.
Il y a tout. Il y a le social washing, French washing, pink washing, femme washing. Il y a tous les néologismes. C'est un fillon que...
Moi, maintenant, j'en ai inventé un autre. C'est pour ceux qui se vendent sur leurs blessures, tu sais, les traumas, un peu le drama washing.
Ouais. Aujourd'hui, peut-être on fait du pod washing. Hein. C'est possible. Il y a un truc qui est intéressant, même dans la culture française. Donc, le greenwashing, oui. Mais même avant ça... les Français ont toujours été assez méfiants de la publicité de façon générale. Moi qui ai la chance d'avoir cette double vision britannique et française, c'est vrai que les Français ont toujours été assez méfiants de la publicité et des messages publicitaires des marques ou des messages des marques. Probablement pour des raisons culturelles, peut-être une tradition d'un côté assez marxiste, notamment dans les universités, cette idée que la publicité pousse à des besoins superflus, donc encourage une surconsommation ou une aliénation des gens, donc une critique de la gauche. Et puis aussi un pays catholique par rapport à un pays protestant, ou en tout cas majoritairement. Et c'est Georges Bernanos, le grand écrivain catholique, qui disait que la publicité finalement reposait sur les péchés capitaux, puisqu'on poussait... la cupidité, la gourmandise. Et donc, la France a toujours été un pays assez méfiant de la publicité. Et aujourd'hui, il est vrai qu'il y a aussi une méfiance accrue par rapport aux messages liés aux messages environnementaux, le greenwashing, mais aussi les messages sociétaux, le social washing, le femme washing, le pink washing.
Et comment d'ailleurs puisque j'imagine que, un peu comme moi, finalement, même si je n'ai pas la même métier que toi, je choisis les marques avec lesquelles je collabore. Mmh. Comment tu les choisis, justement? Parce que si derrière, tu décides de les accompagner sur le fait de véhiculer des messages à impact et positifs pour l'environnement ou pour la société, il faut quand même qu'elles soient relativement clean. Alors, je dis relativement, même si on essaie de le faire au maximum, mais aucune marque n'est parfaite. Mais tu vas pas, je vais pas en citer, mais il y en a où tu sais directement que c'est une blacklist parce que même si elles font du mieux quelque part, ce qu'elles font de base, c'est une catastrophe. Et tu n'y vas pas. Comment tu fais, en fait?
Alors, il y a plusieurs réponses. Je pense, de manière philosophique, qu'il n'y a pas d'engagement sans renoncement. Il faut faire des choix. Si on fait tout, on ne choisit rien. Et aujourd'hui, il faut choisir. On est dans une époque où il faut choisir ses combats. Voilà. Donc, par rapport aux clients, c'est très clair. Nous, on a renoncé à certains secteurs d'activité. Donc, depuis le premier jour, et on a lancé l'agence au 1er janvier 2019, on n'avait pas un seul client. Et pourtant, on a renoncé à pas mal de secteurs d'activité qui sont assez rémunératrices. Je vais vous donner des exemples précis. On ne veut pas travailler avec l'industrie du tabac. On ne veut pas travailler pour les produits phytosanitaires. Donc, Bayer, ce n'est pas possible. Les énergies fossiles, c'est aujourd'hui un sujet qui a été mis sur la table, notamment pour la Convention citoyenne pour l'environnement, et qui est aujourd'hui un peu discuté. Nous, d'emblée, on a dit qu'on ne veut pas travailler pour faire la promotion des énergies fossiles. Et la question qu'on me posait d'ailleurs en 2019, que tous les journalistes me posaient, c'était « Est-ce que vous travaillerez pour Total ?» Et à l'époque, je répondais, peut-être si je tombe sur des gens chez Total qui sont sincères dans leur business unit et qui veulent faire avancer les énergies de demain, les énergies renouvelables. En revanche, les énergies fossiles, jamais. On parle beaucoup aussi, RSE, on a tendance à parler du green, mais il y a aussi la partie sociétale. Récemment, on a décidé, on a fait un vote collectivement, on est une quarantaine à l'agence. J'ai senti qu'il y avait des petits tiraillements, donc je l'ai mis au vote. Et on a décidé de ne plus travailler pour tous les jeux d'argent. Donc, quand vous regardez le rugby, parce qu'il y a beaucoup du monde du rugby en ce moment, ou le foot, les Winamax, les Betclic, la Française des Jeux, représentent des très gros investisseurs, des très beaux clients pour les agences. Donc, pour répondre à votre question de manière peut-être plus concise, oui, on a une liste d'exclusions. Il y a 5 ou 6 secteurs pour lesquels on ne travaillera jamais. C'est dans nos statuts d'entreprise à mission. On l'a dit publiquement, c'est clair et c'est net.
Mais c'est juste par secteur ou par marque? Parce que là, tu vois, tu as exclu les secteurs, mais dans certains secteurs, tu vois, tu m'as parlé de la finance et de la banque. Il y a des banques qui sont un peu catastrophiques. Est-ce que du coup, tu regardes après, une fois le secteur, même si le secteur est OK, pour quelle banque tu vas travailler?
Oui, il y a 2 niveaux, en fait. Le premier niveau, c'est qu'il y a une liste d'exclusion. Donc ça, c'est non. Parce que des marques de ces secteurs, on ne veut pas bosser pour eux. Et après, comme tu le disais très justement, les marques, les entreprises sont comme les personnes. Personne n'est parfait. Ce qu'il faut essayer de jauger, c'est la sincérité de ces personnes d'aller dans le bon sens.
C'est compliqué, ça. Hein? Moi, je fais la même chose. C'est compliqué, objectivement.
C'est horriblement compliqué. C'est horriblement compliqué et ça prend du temps.
Et parfois, on se trompe.
Et parfois, on se trompe. Et il faut admettre qu'on se trompe. Et dans ces cas-là, quand on se trompe, ce que j'essaye de faire, c'est de respecter mes engagements, parce qu'on est des gens courtois, mais pas continuer au-delà de ce qui a été engagé. Il y a des garde-fous à ça, mais je dirais que c'est de plus en plus compliqué. Ce qu'on essaye de faire, c'est quand on a un doute, on rencontre les gens. On oublie que dans les entreprises, souvent, dans une grande entreprise, il y a des gens très différents. Des grandes sociétés emploient 100 000 personnes. Moi, je trouve ça intéressant d'aider celles et ceux au sein des grandes entreprises qui veulent mieux faire. Et il y en a. Il y en a dans toutes les entreprises. On n'est que 2, on serait pas d'accord. Aujourd'hui, on n'est pas d'accord sur tout. Dans une grande entreprise qui emploie 100 000 personnes à travers le monde, il y a forcément des gens qui sont préoccupés par l'état de la planète, par la dégradation de la biodiversité ou par la manière dont on traite les salariés ou ses partenaires. Il y en a, bien sûr. Et ceux-là, il faut les aider, je trouve. Parce que si eux, ils réussissent en conjuguant la performance économique avec la performance sociale, écologique, ça va faire des jaloux en interne. Et on va dire, j'ai envie de faire la même chose. Alors que s'ils se ratent, s'ils ne produisent pas quelque chose qui est efficace, on va leur dire, vous voyez bien, ça ne marche pas tout ça. On continue à faire de l'argent comme avant, ce qui n'est pas possible. Et puis l'autre raison, c'est que ça m'intéresse de travailler pour les grands clients. Bon, si je suis honnête aussi, parce que peut-être je n'ai pas de business model et je n'ai pas de quoi payer 42 personnes, mais aussi parce qu'on sait qu'on doit transformer le monde à grande échelle et rapidement. Et donc, on doit le faire aussi avec les grandes boîtes. C'est pour ça que je donnais l'exemple de Total. Je ne suis pas complètement fermé à Total. Je suis conscient de tout ce qui a été fait par Total par le passé. Après, si je rencontre des gens dans une grande boîte d'énergie sur un projet spécifique qui me semble aller dans le bon sens et qui peut faire valeur d'exemple pour d'autres au sein de sa boîte, de cette boîte, ou créer de la compétitivité, de l'émulation compétitive for good auprès de leurs concurrents, je vais regarder. Mais c'est difficile, c'est difficile.
Ouais, mais là-dessus, t'es plus ledger que moi. Hein. Moi, par contre, si dans la balance, ce qu'ils font de mal est beaucoup plus gros que ce qu'ils font de bien, j'y vais pas. Hein. Ouais. Mais après, non, mais c'est ça. Hein, moi, on n'a pas les mêmes critères, mais après, si on n'a pas non plus le même... Mais tu vois, mon équilibre, c'est là. C'est est-ce que... OK, ce qu'ils font de mal, c'est parce que personne, encore une fois, n'est vertueux. Ça reste minime. OK, j'y vais. Parce qu'ils veulent aller mieux et qu'en fait, là, les points sur lesquels ça reste minime, c'est aussi qu'il n'y a pas d'innovation pour accélérer. Ça va être de la mobilité, ça va être encore peut-être un peu d'investissement pour certaines banques dans les énergies fossiles. Ça va être, enfin, même si elles peuvent s'en extraire, on est d'accord, mais on va dire, ça reste minime. Si c'est une catastrophe à côté, mais qu'il y a des engagements sur des trucs un peu plus verts, histoire d'eux, et pas que histoire d'eux, parce que de toute façon, tout le monde doit aller vers le renouvelable. C'est pas pour citer la marque, mais là, moi, et j'assume complètement mon positionnement, je n'y vais pas. Voilà.
Moi, j'assume de regarder.
Ouais. Oui,
moi,
oui.
Je pense que le truc, c'est qu'on ne fait pas le même métier. Toi, tu es journaliste.
Je fais plein de trucs, je suis entrepreneur.
Ouais, ouais,
je suis
entrepreneur, moi aussi.
Toi aussi. Je ne juge pas ta façon de faire. Ouais. Là juste, on est en discussion et c'est hyper intéressant. Et je pense qu'aussi pour les auditeurs, beaucoup se posent des questions, même sur là, dans notre discussion. Si on l'extrait, c'est même sur de la consommation. Parce que demain, le consommateur, là, on est en train de lui dire, moi, je fais comme ci, moi, je fais comme ça pour travailler avec ces marques-là. Là, c'est la même chose pour consommer. Tiens, moi, OK, je sais que cette marque-là, elle n'est pas ouf. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Tu vois, c'est un peu la même chose, finalement, pour tout le monde. Tout le monde a ce choix-là à faire aujourd'hui.
Tout le monde a ce choix-là. Il n'est pas facile à faire.
Il est hyper compliqué.
En fait, moi, mon propos, c'est plutôt dire qu'il ne faut pas rentrer dans des choses trop simplistes. J'ai une expérience maintenant de 5 ans, au début. Je me rends compte que parfois, il y a des choses qui ont l'air très good. Et c'est pas good du tout. Et parfois, il y a des trucs où on se dit « Oum ». Et on rencontre des gens qui ont compris que leur modèle était
« fucked up ».
Fucked up, j'allais pas l'utiliser, mais merci. Hein, et je pense que si on est honnête, tous les modèles sont « fucked up ».
Ah oui, mais je suis...
Tous.
Oui,
il faut tous les transformer. Aujourd'hui, la grande distribution est « fucked up », l'alimentaire est « fucked up », la mobilité est « fucked up ». Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai pas envie de travailler pour des gens qui sont pas sincères. Après, donc, on a une liste d'exclusions qui est, je suis certain, la plus contraignante de tous nos concurrents directs, de très, très loin. Point 1. Et point 2, si je sens que les gens font ça en surface, je ne vais pas le faire.
Ouais.
En revanche, si je sens que même au sein d'une boîte qui a l'air bad, il y a une volonté, il y a une vraie prise de conscience de mes interlocuteurs et mes interlocutrices qui veulent faire quelque chose, qui veulent transformer leur boîte, moi, je suis prêt à apporter... Comme un supplétif pour faire en sorte qu'eux, ils réussissent.
Ce que tu veux dire.
Ce qui est compliqué, mais c'est horriblement compliqué, mais je pense vraiment que c'est très facile de jeter de l'anathème. Il faut avoir de la nuance. Si on dit que... On part du constat que tout est fucked up, on est d'accord là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
C'est la fin du monde, tout le monde est fucked up.
Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? La question, c'est que faire? Moi, j'adore le philosophe Hegel, pour plein de raisons. Mais même s'il est illisible, mais j'ai compris à peu près ce qu'il voulait dire dans
le journal.
J'ai
envie de le lire. Voilà.
Non, non, ne lis pas en direct. On peut en parler si tu veux. Ne lis pas aussi pour t'endormir, c'est bien. Non, mais Hegel, il a ce concept de la belle âme. La belle âme. La belle âme, en fait, c'est quelqu'un qui ne se confronte pas à la réalité. Donc, qui juge, qui regarde, qui s'indigne, mais qui ne rentre pas en action. C'est facile d'avoir une belle âme. Aujourd'hui, je trouve que quand Stéphane Hessel a écrit son essai Indignez-vous, il avait raison. Mais aujourd'hui, l'indignation ne suffit pas. L'indignation, c'est important, mais c'est utile que c'est le prérequis à de l'action. Si on s'indigne, et je trouve qu'on est dans une société du commentaire, où tout le monde commente, s'indigne, mais derrière, il faut faire des choses. Mmh. Et pour faire des choses, il faut s'engager dans la réalité des choses. On peut regarder, observer, et dire que c'est pas bien. On peut aussi se dire, it's fucked up, je retrousse les manches et j'y vais. Il est très facile, je trouve, de donner des leçons, on parlait de personnes imparfaites, d'être, sur les réseaux sociaux. Moi, il y a un truc qui m'a frappé il y a 10 ans, ça. C'était, il y avait, c'était au début, 10-15 ans, c'était le début de Facebook, il y avait quelqu'un qui s'indignait de gens STF qui étaient dans la rue du Faubourg Saint-Denis, près de j'habite. C'est notre publicitaire qui avait posté ça. Je regardais, c'était le début des réseaux sociaux. Et disait, et montrer une photo, disait, c'est scandaleux, il y a plein d'STF, etc. Et puis, effectivement, dans tout le feed, il y avait que des gens qui s'indignaient. Puis moi, à un moment donné, j'ai dit, ben voilà, regardez, il y a un lien, donné à Emmaüs ou donné à Action contre la faim. Il y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui. Mmh. Beaucoup de gens qui parlent. Personne n'agit. Moi, je vais te donner un exemple très concret. Très concret. Qui sort peut-être de la RSE, j'en sais rien. Moi, je suis attaché à la liberté de la presse. Je suis aussi attaché à ce qu'il n'y ait pas des méthodes de management qui soient trop brutaux. Good company, ça implique qu'on soit peu good. Ouais. On peut être exigeant, mais il y a des comportements toxiques qui ne sont pas tolérables. Quand il y a un milliardaire qui systématiquement rentre dans le capital des boîtes et qui vire 97% des journalistes, à chaque fois, beaucoup de gens s'indignent. Beaucoup, beaucoup de gens s'indignent. Il y a eu un concert lundi soir au Théâtre du Châtelet, organisé par les anciens du JDD. Tout le monde s'est indigné. Combien de sponsors y avait-il? 3. La mairie de Paris, parce qu'il filait le Théâtre du Châtelet. La Maïf. World Talk, bravo à la Maïf, et nous, PME. Mmh. Voilà. Donc, à un moment donné, moi, je suis dans le réel. Je ne suis pas dans le « il faudrait, il n'y a qu'à, faut que ». Je pense que, oui, en rentrant dans le réel, on se salit, mais je préfère me salir et faire des choses plutôt qu'être une belle âme qui observe, qui commente et qui est spectateur de sa vie. Ça ne m'intéresse pas. Et je pense, même aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on est, il ne faut pas être un spectateur de sa vie, il faut être un acteur de sa vie et faire changer les choses. Pour faire changer les choses, il faut accepter que la réalité n'est pas toujours parfaite et qu'elle n'est pas noire ni blanc.
Et c'est quoi tes perspectives, là, du coup, avec The Good Company? C'est de grossir, d'accompagner davantage de marques, d'avoir un pas de côté, d'être encore plus...
Je sais pas, moi j'ai toujours dit que je voulais pas que l'agence soit plus que 50, mais ça c'est plus pour des raisons personnelles. Je sais pas si je suis compétent pour manager plus de 50 personnes. Ou peut-être plutôt que je sais qu'à partir de 50 personnes, il y a de la politique, il y a des... D'ailleurs, c'est intéressant, ça rejoint... Bah,
Moi, je suis à une personne. Donc c'est déjà difficile à gérer toute seule.
Ouais, exactement. Mais moi j'ai 49 personnes pour me gérer moi, c'est ce qui est différent.
Ah, c'est pas mal, ouais. Comme ça.
Mais mes collaborateurs diront qu'il faut me gérer un peu, mais... Mais ils sont formidables d'ailleurs. Mais peu importe. Les perspectives, c'est quoi? Moi, je pense, mais ça rejoint la performance, quand on mesure la performance. Je pense que la croissance, pour moi, n'est qu'un outil économique, n'est qu'un outil pour essayer de faire des travaux qui ont du sens, qui accompagnent des entreprises. Il ne faut pas oublier aussi, parce que la publicité, c'est aussi pas que les entreprises, c'est aussi les pouvoirs publics, les associations. Quand je fais une campagne pour SIDAction, au coup, nous faisons une campagne pour SIDAction ou pour Greenpeace, ben, je suis très fier de pouvoir défendre ces causes-là. Je pense que si on veut réussir les transitions sociaux et écologiques, il faut que tout le monde s'y mette. Donc, on travaille avec des entreprises, on travaille avec des pouvoirs publics, on travaille pour des acteurs parapublics, on travaille pour des associations, et on va continuer comme ça. Et moi, j'ai envie de réussir sans me trahir. Donc, c'est très clair, on a déjà renoncé à peut-être 20% du marché publicitaire. Et nous ne prendrons jamais un brief où on ne travaillera jamais pour des gens où on sent que c'est fake, quoi. Je peux vous donner des exemples très concrets. Au début de l'agence, on n'avait pas de clients, ce que j'ai déjà expliqué. Hein. On s'est lancé par conviction, pas par opportunisme. En général, une agence de pub, pour les auditeurs et les auditrices qui ne savent pas, en général, une agence se crée parce que il y a un client qui dit « je vais vous suivre ». Voilà, Luc, si vous créez votre boîte, ce serait chouette de travailler avec vous. Nous, on est parti de rien, on était 7 ou 8 fondateurs et fondatrices, on a commencé sans rien. Et donc, à un moment donné, il fallait quand même gagner de l'argent. Et j'ai reçu un brief d'une marque alimentaire assez connue. On était plutôt contents. Et puis, ils nous disent « voilà, on a besoin de vous parce qu'on a plein d'engagements, mais ils sont méconnus ». On se dit « chouette, un client plus engagé qui a l'air d'être... » sur la bonne voie, et puis on a besoin de fric, donc faut y aller, quoi. Et on lit le brief, et puis on se dit, mais c'est bizarre, parce qu'ils sont pleins de labels, mais on n'en connaît
c'est
aucun.
Vide, ouais.
On n'en connaît aucun.
Ouais.
Et donc, on a pris le temps, plutôt que juste prendre nos trucs, on a pris le temps, on a regardé sur Internet, et on a compris que tous les labels étaient des labels bidons.
Fucked up. Des labels fucked up. Pour reprendre notre terme. Voilà.
Et du coup, j'ai rappelé le client et j'ai dit « Écoute, je suis désolé, mais je trouve que vos engagements ne sont pas assez substantiels, ne sont pas assez sincères, donc on n'a pas envie de travailler avec vous. » Je ne le dirai pas publiquement, je ne dirai jamais le nom de la marque.
Oui, non.
Mais j'ai pas envie de travailler avec vous. Et je leur ai dit, en plus, je pense que vous prenez un risque pour votre entreprise, ah bah, puisque, ouais. puisque votre manque de sincérité...
Aujourd'hui, le consommateur, il n'est pas dupe. Hein. Il connaît hein,
oui.
l'internaute, le consommateur, ouais. même si parfois, il cesse un peu dupé. Très vite, de toute façon, il y a des alertes. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de polices du greenwashing, justement. Mmh. Ils oui. sont là pour te dénoncer. Donc,
Oui, bah, bien sûr. Il y a, pour le coup, la publicité classique, je trouve... Alors, il faut être honnête. Alors, après, je ne peux pas plaire à tout le monde, mais la publicité classique concentre beaucoup de... Et tant mieux, d'ailleurs, beaucoup de la vigilance des pouvoirs publics. La Convention citoyenne pour le climat avait proposé des choses par rapport à la publicité classique. Et on est, certes, l'autorégulation, mais quand même, il y a le bureau de déontologie de la publicité, il y a pas mal d'organismes qui veillent à ce que les marques ne disent pas tout et n'importe quoi dans leur publicité, on va dire, classique. Après, le problème du greenwashing, ce que je trouve terrible, et je n'ai pas forcément la solution à ça, c'est que, en 2019, quand on a créé l'agence, c'était vraiment un sujet de publicité. Le greenwashing, c'est la publicité. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que la publicité est devenue, si je reprends des termes un peu sociologiques, un fait social total. Mmh. Et donc, le greenwashing, il est dans le discours des politiques, il est dans les labels, il est dans les associations. Et c'est horriblement difficile aujourd'hui de démêler le vrai du faux. La seule chose qu'on peut faire, c'est travailler, essayer de comprendre. Je pense que c'est forger une culture, poser les questions, aller au fond des choses, pas être trop opportuniste, de temps en temps dire non aussi. Et c'est pas parfait, mais quand même, globalement, nous, on n'a jamais en 5 ans été épinglés pour du greenwashing ou du social washing. Et j'ai fait quelques petites erreurs, mais globalement... Dans un monde cynique où les réseaux sociaux vous tombent dessus tout de suite.
Tout le monde peut t'accuser de greenwashing aujourd'hui ou demain, même sur quelque chose. Simplement parce que tu accompagnes une marque et que tu vas parler de son engagement, tu te fais t'accuser de greenwashing.
Oui.
Parce que la personne se dit, bah oui, mais c'est une marque. Bah oui, mais bon, il faut aussi qu'elle communique sur ce qu'elle fait. Donc c'est compliqué. Tu sais, l'écologie, enfin, ces sujets-là, c'est un jeu d'équilibriste, souvent je dis. C'est comme même dans la vie, tu essayes un peu de te. Tu sais, c'est un peu... Oui, hop, tu vas d'un côté, hop, tu vas de l'autre. Attention, j'y vais pas. Parfois, moi, je suis trop... Nadia, d'ailleurs, qui travaille avec moi sur Empreinte, parfois, elle me dit trop activiste. Ou, bah, je rejette tout en masse. Du jour au lendemain, non, mais je veux plus bosser avec personne. Et puis, parfois, c'est l'inverse. C'est, ouais, t'as essayé de travailler avec ça, avec cette marque. Je sais plus, moi. En fait, c'est vraiment parfois tu dis, bah oui, mais j'ai envie d'accélérer la transition. Donc, qui a l'argent? C'est les marques. Donc, je vais essayer de travailler avec elles pour essayer de les faire changer. Et puis, il y a des jours où, en fait, t'as plus envie de travailler avec elles parce que tu dis, non, mais en fait, de toute façon, c'est vraiment, ça, c'est n'importe quoi ce qu'elles font. Donc, j'arrête. Et c'est toujours ça. Enfin, moi, c'est un peu ça dans ma tête. Toujours. Donc, c'est pour ça que je suis un peu schizophrène maintenant, aujourd'hui. Mais
on l'est tous. On l'est tous. Après, et la contradiction humaine a toujours été le cas. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que tu viens d'utiliser le mot activiste.
Oui.
En disant je rejette tout. Mais un activiste, c'est dans l'action.
Moi, c'est pour ça que souvent, alors je ne sais pas si j'ai inventé ça, mais je dis activiste solutionniste. C'est-à-dire que j'essaye de trouver des solutions. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre nue devant une œuvre d'art pour dire que je ne suis pas d'accord. Par contre, je ne jette pas la pierre à ceux qui font ça. Moi, je pense que toute forme d'activiste est bonne à prendre. C'est juste que moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Je suis plus le côté... je vais essayer dans l'action, quoi, trouver des solutions. Comme quand tu as une maladie, que tu essaies de rechercher un peu comment te soigner. Moi, j'ai toujours essayé de voir le positif, en fait. Le jour, pour moi, où tu arrêtes de voir le positif, bah, tu te laisses mourir et en fait, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, pour moi.
Exactement. Il faut être dans l'action.
C'est mon mindset.
Ouais, mais moi, j'ai le même. Je pense qu'il faut être dans l'action. Encore une fois, c'est la belle âme. Il faut à un moment donné se frotter au réel. Parfois, ça fait mal. Parfois, on est en contradiction avec soi-même. Mais il faut essayer. Je pense qu'il y a un truc, même de devenir adulte, de devenir soi. J'ai une fille qui est adolescente, donc je suis plein dedans. C'est l'ado qui dit non, qui rejette le monde. On ne peut pas être éternellement ado. À un moment donné, il faut prendre le truc. Et à chacun son rôle aussi. C'est-à-dire que moi, je te rejoins parfaitement. Moi, je n'ai pas de problème à ce que des jeunes utilisent des œuvres d'art dès lors qu'ils n'abîment pas réellement. Parce après, c'est hystérisé tout ça pour attirer l'attention de l'opinion publique sur l'urgence du réchauffement climatique ou la...
Non, au contraire, je trouve que c'est une liberté d'expression. En fait, je pense que chacun joue le rôle qu'il a envie de jouer et qui lui semble le plus juste. Tu vois, j'aime bien le côté juste. En fait, moi, je me sens juste dans ce rôle-là. D'autres vont se sentir juste dans le fait de dénoncer, d'être dans la colère aussi. Enfin, moi, je pense que toute forme d'émotion, de toute façon, de l'homme, que ce soit de l'empathie, de la colère, de la rage, de l'amour, de la haine, c'est important de la manifester. Et peu importe la forme que ça prend. Après, en effet, il faut éviter les guerres et les conflits. Mais parfois, il faut aussi rentrer dans l'art. Moi, c'est pas, j'y arriverai pas. Je sais que j'y arriverai pas. D'ailleurs, je les admire parfois de faire des choses comme ça. Même si, parfois, tu dis, c'est peut-être un petit peu abusé. Mais je me dis, s'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait une raison.
Oui. Moi, je ne refuse pas de ça parce que je trouve aussi que ce qui a été le scandale d'aujourd'hui, enfin, demain, devient normal. C'est-à-dire que les suffragettes, quand elles se jetaient sous les chevaux à Ascot, il y en a une qui est morte d'ailleurs, on trouvait ça absolument scandaleux et maintenant on se rend compte que c'était juste. Donc, je pense qu'il faut juger ça à l'aune de l'histoire, le recul de l'histoire. Premier point, ce qui est vrai. Ce qui nous semble être la vérité aujourd'hui peut être vu autrement dans quelques années. Et on sait que quand même, on ne respecte pas les accords de Paris, que la biodiversité se casse la gueule. Et que donc, ce qui est aujourd'hui perçu comme étant choquant pourra demain être perçu comme normal. Et d'ailleurs, je pense que les jeunes générations, peut-être en un œil, trouvent ça plus normal que nous qui sommes un peu plus âgés. Et puis surtout, moi, ce n'est pas mon rôle. Moi, je suis un publicitaire. Ce qui est intéressant pour moi, parce que c'est vrai que, on parlait de la publiphobie, c'est un peu bizarre qu'un publicitaire s'intéresse à la transition sociale et écologique. Parce que le publicitaire, d'ailleurs les écologistes radicaux ou les altermondialistes vont dire que la publicité est inutile. Je comprends leur point de vue, j'ai pas de sujet avec ça. Moi, je pars plutôt du constat que, aujourd'hui, il y a 500 milliards d'argent qui est dépensé dans la publicité. Que tant qu'il y a des entreprises, c'est difficile de les interdire de communiquer.
Donc autant les accompagner du mieux possible.
Voilà, autant les accompagner du mieux possible et faire en sorte aussi que leur message incite à une consommation plus raisonnée et durable plutôt qu'à une consommation nos limites et toxique. Moi, je préfère que les gens achètent des fagots ou du Patagonia plutôt que du Shine. Et je préfère faire en sorte que ce n'est pas une question d'argent et d'embourgeoisement, parce que la réalité, c'est qu'on sait que le panier moyen des gens qui achètent de la fast fashion est autant que ceux et celles qui achètent des marques plus responsables. Le sujet, c'est juste de faire en sorte que les jeunes aujourd'hui, quand ils regardent par exemple la publicité des influenceurs, ils se disent que ce qui est cool, c'est des trucs responsables, ce que Veja a réussi par exemple. Ce qui est cool est plus responsable, et ce qui est un peu ringard, c'est des trucs qui sont cheap. Cheap à tous les niveaux. Il y a d'ailleurs un tout héroïque que j'adore, c'est la cheapisation du monde. C'est Raj Patel qui avait écrit un livre sur la cheapisation du monde, qui est une théorie assez intéressante sur le fait qu'on passe toujours, à force de chercher toujours des réductions de coûts, bah, tout devient cheap et ça abîme. On croit que c'est cheap, mais ce qui est low cost et high cost pour l'être humain et pour la planète.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on va clore cet épisode de l'Empreinte, Luc.
Merci beaucoup. Merci
pour cet échange, c'était hyper inspirant. J'espère qu'on aura un peu aiguillé à notre façon, les consommateurs, les auditeurs, pour choisir une marque. Ça reste compliqué.
Ouais,
pour nous, tu vois, ça l'est. Pour tout le monde, c'est compliqué.
Oui, mais c'est compliqué, mais ce n'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas faire. Il faut essayer.
Exactement.
Et un consommateur, une consommatrice lambda, quand il ou elle est dans le rayon de son supermarché, qui se pose la question de ce produit, il est bon, il a l'air sympa, et est-ce qu'il est plus responsable que celui d'à côté? Ça ne réglera pas tout, mais ça sera déjà quelque chose que moi, à mon niveau, je peux essayer d'aider. Voilà.
Merci beaucoup, Luc.
Merci à vous.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de l'Empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et puis moi, je vous dis à très vite.